De retour sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse, Samia avec vous, nouvelle quotidienne, quotidienne littéraire. Aujourd'hui, on découvre un auteur de la région, vous le connaissez peut-être, moi je le connaissais pas, et je savoure franchement parce que je ne connaissais pas la littérature abstraite, et les amis, c'est un Lot-et-Garonnais qui l'a décliné, il s'appelle Stéphane Puchot, il est avec nous. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour.
Vous êtes écrivain professionnel depuis 14 ans, dans les années 80, vous avez vécu ce que vous appelez une déflagration sentimentale traversée par l'esthétique. Allez, pour un peu vulgariser les choses, les amis, monsieur Puchot est tombé, peut-être il a eu un crush pour une jeune femme, ce qui lui a donné envie d'écrire. Et c'est votre premier texte de A à Z que vous avez délivré en 1986. Depuis, vous avez fait du chemin, entré dans le monde de l'édition. Ça fait à peu près 30 ans que ça dure, c'est ça ?
Alors précisément, un peu moins. Vous voulez que je parle de mes années de quête d'éditeur, peut-être ?
Moi, ça m'intéresse beaucoup, ouais.
Bon. Alors, j'ai trouvé une expression pour résumer toutes ces années. Ce sont les années, grosso modo, 2000 à 2008, entre 7 et 8 ans. Donc en 2000, j'ai la trentaine, j'écris depuis longtemps, et je me dis à ce moment-là que mon travail est suffisamment de qualité pour être publié. Donc concrètement, je me renseigne du mieux possible pour savoir qui publie quoi en France et qui peut être intéressé par ma littérature, qui déjà à l'époque est dans un schéma ouvert. On n'est pas dans une histoire avec les concepts classiques de personnages identifiés socialement, une intrigue, une chronologie la plupart du temps linéaire, etc. Moi, je joue beaucoup avec l'espace et le temps, et c'est beaucoup plus, de mon point de vue, réaliste. Lorsque j'évoquais la comparaison avec, entre la nouvelle et la journée. Donc, pendant toutes ces années, j'ai envoyé, avec parcimonie, mes manuscrits, dont un roman, le seul que j'ai écrit en 2000, à certains éditeurs. Et j'étais à chaque fois refusé.
Ouais.
J'ai eu droit quand même, ça c'était très intéressant, à plusieurs lettres de critique très étoffées qui évoquaient mon travail. Et si justement j'évoque mon seul et unique roman, L'homme qui avait ses règles, que j'ai écrit en 2000, eh bien je me souviens d'un retour d'une maison d'édition nantaise, Le Passeur, pour ne pas la nommer, qui, à la fin de sa critique, écrit la phrase suivante. Votre roman est très intéressant et fort bien écrit. Simplement, tout au long de ce roman, de cette fiction, le lecteur attend une histoire qui ne viendra jamais.
Oui.
Eh bien, ils ont effectivement, ils avaient raison, ils ont vu un élément essentiel de ma littérature, sauf qu'ils n'y étaient pas sensibles. Voilà, et c'est pour cela, notamment, que je n'ai pas été édité à ce moment-là, parce que j'avais 30 ans.
Alors, on va en parler justement de cet élément. Il n'y a pas d'histoire dans vos livres. Moi, pourquoi aujourd'hui je vous reçois, c'est parce que vous venez présenter, et on en parlera dans la dernière partie d'émission, Magnus ou Le Cavalier, votre nouvel ouvrage. Et j'avais été un peu déstabilisée, et ça nous a pris un peu de temps de construire cette émission, parce que, les amis, la littérature abstraite, il n'y a pas d'histoire. Tout doit se vivre comme quand vous regardez un tableau. Voilà. C'est une émotion, vraiment. Alors, pari gagné pour moi, parce que j'avais plutôt eu la bonne lecture. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Donc, j'ai évolué un petit peu.
Vous avez évolué dans le bon sens. Ouais. Puisque l'art, qu'il s'agisse d'un tableau, d'un livre, d'un film, d'une sculpture, etc., n'a pas à être compris. Il a à être ressenti. Et ça, c'est une erreur que font, c'est vrai, beaucoup de gens, et c'est dommage, mais ça devrait évoluer. J'aime bien citer Bach, par exemple. puisque Jean-Sébastien Bach a apporté beaucoup à la littérature. Ah, pardon.
À la musique.
C'est dire si les arts sont proches parfois, puisque dans le style pour moi est un peu de musique aussi. En musique savante, tout le monde peut écouter Jean-Sébastien Bach. Mais très peu de monde savent à quel point c'était un très grand technicien de la musique classique et que sa musique est extrêmement riche. J'ai des connaissances mélomanes, par exemple, qui ne peuvent pas écouter Bach parce que ça les étouffe.
Vous voyez,
il y a une sensation, c'est tellement riche, c'est un flot permanent, extrêmement organisé, qui vous produit des émotions ou pas. Pour moi, c'est le cas. Je reconnais Bach tout de suite, comme d'autres, comme Chopin, Rachmaninoff, etc. Par analogie, comme je reconnais immédiatement des plans de Hitchcock, de Godard, et là, on est justement dans le style. Donc, pourquoi finalement je vous parle de Jean-Sébastien Bach ?
Parce qu'on disait que c'est une littérature qui se vit, qui se ressent, voilà, comme ça. Si on écoutait un morceau de musique ou qu'on regardait une toile. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que, alors à un moment donné, vous avez dit, c'est bizarre, je fais une analogie entre la musique et la littérature. Oui. Et votre littérature, elle est rythmée, elle est écrite dans un sens où il faut la lire à l'oral d'une certaine manière. C'est peut-être ça que j'ai compris ou...
Alors, c'est une question intéressante que vous me posez parce qu'effectivement, il y a plusieurs rythmes dans mon écriture.
Oui.
Nous allons le voir dans Magnus. C'est plutôt par paragraphe.
D'accord.
Ceci dit, si je pense par exemple à mon ouvrage de 2015 qui s'intitule Le narrateur, qui est très riche, il y a de longs, je dirais pas développement, mais des phrases très longues, de 20-25 lignes. Puis, soudainement, une seule phrase emplit l'espace. Ensuite, en continuant, j'écris une phrase de 6 ou 7 lignes.
Oui, alors dans Magnus ou le cavalier, justement, il y a ces pages blanches qui sont donc parcourues d'une phrase. Et puis ensuite, c'est hyper rythmé et c'est intéressant en ce sens-là parce que il y a toujours une monotonie qui est cassée, en fait. Hein.
Oui.
Voilà.
Alors, on y viendra sûrement. La particularité de ce livre, c'est que les phrases courtes, comme vous le disiez, qui prennent toute une page, et ensuite on revient, on va dire, dans le rythme plus ou moins classique, ces phrases courtes sont non pas des coupures, mais peuvent être considérées comme des pensées.
Exactement,
philosophiques,
ouais.
Comme des aphorismes. Mm-mm. Vous voyez ? Et c'est vrai que c'est, on me le dit assez souvent, mon écriture est assez synthétique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée, il y a un moment de ça, d'être traduit en latin. Là, je parle de mes essais, pas de mes fictions. Oui, oui, absolument.
La littérature abstraite en latin, alors
ah non.
Vraiment. Ah alors... ouais, d'accord. Ok, parce que j'allais dire là. Ouais.
Pas la littérature abstraite, pas la fiction, mais mes essais.
D'accord.
Puisque je suis aussi essayiste.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc, mes essais qui sont très courts, qui sont synthétiques aussi. Mm. Justement, peuvent être assez bien traduits en latin, et on peut les lire à travers l'ARALM, la revue qui me publie depuis 2009.
Tous les dimanches, vous publiez dans la revue d'art, de littérature et de musique. Et donc ça, c'est un exercice auquel vous vous attelez chaque semaine et qui vous prend, vous me disiez, à peu près, vous écrivez à peu près 35 heures par semaine.
Alors oui, ça c'est par rapport à mon emploi du temps, depuis que je me consacre à la littérature, c'est une moyenne, oui, je consacre à peu près 35 heures par semaine. J'alterne entre l'écriture, la correction et la lecture, en sachant que la lecture, donc lire les autres, continuer à lire de la littérature essentiellement, aussi de l'histoire, je reste passionné par notamment l'Antiquité. Donc la lecture me prend beaucoup de temps et J'essaie de... En fait, c'est un rythme qui est devenu naturel. Je n'ai aucun impératif par rapport à mes publications hebdomadaires via la RALM. C'est devenu mon rythme. Je publie chaque semaine, j'offre soit un essai, soit une nouvelle inédite.
Et vous publiez chez deux éditeurs, Le Chasseur Abstrait, c'est ça, fin 2008,
oui.
Qui accepte vos manuscrits.
Oui.
Et Édition Non 31, qui est un éditeur Leiraquet, donc vraiment d'ici, et qui a édité votre tout dernier ouvrage. Avant de refermer cette deuxième partie, j'avais une question qui m'a traversé l'esprit pendant que vous me parliez de vos œuvres. Est-ce qu'on peut dire que c'est une littérature intuitive ? Pas de votre point de vue, du point de vue du lecteur. Est-ce qu'il doit laisser aller ses intuitions pendant la lecture ?
Je vous avoue que je ne comprends pas tout à fait votre question.
Ma question, c'est que Magnus ou le cavalier, dont on va parler dans un instant, ça peut être déroutant à certains moments. Est-ce que le fait de le ressentir, est-ce que de développer une intuition personnelle tout au long de cette lecture peut permettre justement de comprendre un petit peu où l'auteur veut nous mener ?
Alors, je vois ce que vous voulez dire. Moi, je parlerai plutôt de sensibilité.
D'accord.
C'est ce qui joue et se joue entre l'auteur et le lecteur et celui qui reçoit. Je crois que même si on a un bagage que je qualifierais de classique, la plupart des gens lisent des livres avec des histoires. Ils peuvent tout à fait être ouverts à autre chose. Même si ces deux schémas n'ont absolument rien à voir. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais c'est une affaire de sensibilité, de curiosité, et on en parlait tout à l'heure, de ressenti. Il faut tout simplement... et aussi, en fait, c'est une aventure. Voilà. Moi, je le vis en tant que créateur, et je crois que le lecteur doit s'aventurer dans ma narration, sans trop se poser de questions, et il verra s'il ressentira un certain nombre de choses, et surtout il sera libre d'interpréter ma narration à sa guise.
Stéphane Puchot est avec nous, les amis, auteur et créateur de la littérature abstraite. Hein, voilà, on a un Lot-et-Garonnais qui décline une nouvelle façon d'aborder la littérature. Magnus ou le cavalier, c'est votre dernier ouvrage. On en parle dans un instant. Juste le temps d'une petite pause musicale. Le top de la musique, c'est maintenant. Et c'est sur le 93.6. Ici, c'est Radio Bulle. C'est votre radio de la jeunesse.